Europe Nuit,
Alexandre Lemaire.
Bonsoir. La sécurité et l'immigration au cœur du déplacement de Gérald Darmanin et Sébastien Lecornu à Mayotte, qui connaît une hausse de la délinquance et de l'immigration illégale. L'attribution de la nationalité française aux enfants nés à Mayotte sera encore limitée, annonce le ministre de l'Intérieur. Nombre d'entreprises devront bientôt se redresser sans les bénéfices du quoi qu'il en coûte. Suppression annoncée du fonds de solidarité le 30 septembre prochain. Il sera remplacé par des aides beaucoup plus ciblées. Le pass sanitaire franchit un nouveau cap. Il s'impose maintenant à près de 2 millions de salariés en contact avec le public, sous peine de suspension. Focus dans ce journal sur deux secteurs d'activité concernés, les salles de sport et l'hôtellerie-restauration. Vous verrez eh bien que la mise en place n'est pas toujours simple. Les Américains commencent à découvrir les dégâts considérables provoqués par l'ouragan Ida, 16 ans exactement après Katrina. La Nouvelle-Orléans toujours privée de courant, nous serons aux États-Unis dans ce journal. Nouveau rebondissement dans le mercato, le transfert de Mbappé est au point mort, les négociations interrompues entre le Real Madrid et le PSG. Précision de Cyril de la Morinerie à suivre. Après le journal, un point complet sur la bourse, top à Wall Street avec Didier Hamot. L'interview écho, Emmanuel Duteil reçoit Pierre Goguet, le président de CCI France, qui réagira justement à la fin du quoi qu'il en coûte. Et puis bien sûr, les premières unes de la presse de demain matin. D'abord donc cette réplique de la majorité présidentielle sur les thèmes de la sécurité et de l'immigration. Depuis le début de l'été, la droite attaque Emmanuel Macron sur le thème de la politique migratoire. Le chef de l'État a donc envoyé deux ministres forts issus de la droite à Mayotte qui enregistrent une hausse de la délinquance et de l'immigration clandestine. Gérald Darmanin et Sébastien Lecornu ont fait plusieurs annonces pour ce département d'outre-mer. Louis Dragnel, c'est donc un virage à droite ?
C'est certain. Sébastien Lecornu, le ministre de l'Outre-mer, vient de faire des annonces très politiques. À Mayotte, pour qu'un parent d'enfant français obtienne un titre de séjour, à l'avenir, il faudra prouver qu'il s'occupe réellement de l'enfant depuis 3 ans et non depuis 2 ans, comme c'est le cas aujourd'hui. Ensuite, le sujet est très sensible. Depuis 2018, le droit du sol à Mayotte est limité. Un enfant qui naît sur le sol mahorais n'a pas automatiquement de carte d'identité française. Il faut qu'au moins l'un de ses parents soit en situation régulière depuis 3 mois. Eh bien, le ministre de l'Outre-mer vient d'annoncer que ce délai de 3 mois va être porté à 1 an, avec un objectif, limiter l'arrivée à Mayotte de femmes comoriennes enceintes dans les semaines qui précèdent leur accouchement. Enfin, dernière mesure, toujours pour lutter contre la fraude, la création d'un fichier commun à toutes les municipalités pour que la même demande de titre de séjour ne puisse plus être déposée dans plusieurs mairies en même temps. Pour terminer, il faut bien noter que les deux premières mesures qui ont été arbitrées jeudi dernier par Jean Castex ne pourront s'appliquer que si le projet de loi Mayotte est voté. Seulement, ce n'est pas un détail, il sera soumis au parlementaire, mais après la présidentielle. Emmanuel Macron est donc bien en train de chercher à séduire la droite.
Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Le quoi qu'il en coûte, né de la crise sanitaire, vit donc ces dernières semaines. Les aides aux entreprises seront progressivement plus ciblées. Le ministre de l'économie met en avant la facture. 80 milliards d'euros de subventions ont été versés au nom de ce principe. Cette page qui se tourne est aussi justifiée par des signes de reprise économique. La France devrait retrouver à la fin de l'année son niveau de croissance d'avant-crise. Dans l'immédiat, Carole Ferry, les aides vont se poursuivre au-delà du 1er septembre pour certains secteurs.
Oui, tous les secteurs qui continuent à subir les impacts de la crise, comme les restaurants, les centres commerciaux, les salles de sport, l'événementiel, etc. Pour eux, le fonds de solidarité sera maintenu jusqu'à fin septembre, avec une condition supplémentaire. Toutefois, il faudra réaliser un minimum de 15% de chiffre d'affaires pour avoir le droit à ce fonds de solidarité, pour éviter les effets d'aubaine, a précisé le ministre de l'économie, Bruno Le Maire.
Qu'il y a certaines entreprises qui, plutôt que de rouvrir, se disent on préfère rester fermé et toucher le fonds de solidarité. Je ne veux pas d'effet d'aubaine dans l'aide qui est apportée par l'État, c'est-à-dire par le contribuable français, aux entreprises en difficulté. Par conséquent, pour avoir accès au fonds de solidarité dans les conditions que j'ai indiquées, il faudra avoir fait désormais au minimum 15% de chiffre d'affaires.
À partir du 1er octobre, fin du fonds de solidarité, le dispositif des charges fixes prendra le relais. Il prévoit que l'État rembourse l'essentiel des coûts comme le loyer, l'assurance, l'électricité, etc. Ce dispositif est réservé aujourd'hui aux entreprises qui font plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires par mois. Ce plafond, il va sauter. Un dispositif plus complexe, toutefois, qui nécessite 3 heures d'expertise par dossier. Les aides seront donc versées moins rapidement, prévient le ministère. Enfin, un nouveau bilan sera fait en novembre pour voir si ce sur-mesure doit continuer ou s'arrêter.
Carole Ferry du service économie d'Europe 1. Nouvelle extension du pass sanitaire depuis ce lundi. Il est obligatoire pour les salariés au contact du public, ce qui place donc clients et employés à égalité devant les règles à respecter. Les salariés en contact avec le public doivent donc être munis d'un pass sanitaire sous peine de suspension sans rémunération. Virgile Caillet est le délégué général de l'Union Sport et Cycle. Il représente les entreprises de la filière. Dans les salles de sport, il juge logique que les salariés soient soumis aux mêmes règles que les clients.
Nous, on a été confrontés à la mise en place du pass sanitaire les premiers. C'est-à-dire que quelque part, on a essuyé les plates. Ça a même été très compliqué, hein, puisque dès le 21 juillet, il y a eu quand même quelques atermoiements, quelques ajustements dans l'organisation du pass sanitaire. Donc, je dirais qu'on est maintenant un peu rodé sur le pass sanitaire en direction des clients, des usagers, des salles de sport. En revanche, pour les salariés, ça se met en place aujourd'hui. J'oserais dire que ça se passe plutôt pas mal, même si on est un secteur évidemment particulier, puisque 80% de nos salariés ont moins de 30 ans. Évidemment, c'est ceux qui ont eu accès à la vaccination le plus tard, et puis pas forcément enclin à aller se vacciner. Donc, il y a eu une petite période un peu de calage. Évidemment,
faut
tout le monde n'est pas encore vacciné.
Il faut expliquer, aux jeunes employés.
Pédagogie. Donc, ça se passe plutôt bien. Mais en même temps, objectivement, c'est quand même effectivement une contrainte organisationnelle, mais que l'on assume parce qu'on pense que le pass sanitaire est la seule solution pour qu'on retrouve une activité normale.
Et Virgile Caillet avec Romain Desarbres, pass sanitaire obligatoire pour les salariés au contact du public, donc avec des exceptions notables, les employés des cantines, des restaurants d'entreprise et les salariés chargés des services en chambre et des petits déjeuners à l'hôtel ne sont pas soumis à cette règle. De quoi perdre un peu les employeurs à l'heure de la mise en place. Olivier Cohn est le directeur général de la chaîne d'hôtels Best Western France. En fait, les règles pourront très bien changer d'une salle à l'autre.
Il y a des règles sur lesquelles on n'est pas encore tout à fait défini. Il y a encore des choses, ce matin, on recevait encore quelques éclaircissements sur les cuisines, par exemple, dans les restaurants de nos établissements, pour savoir qui devait avoir le pass sanitaire.
Parce que la cuisine aussi, ce n'est pas pour tout le monde le pass sanitaire.
Voilà, si la cuisine est fermée et que le personnel de la cuisine n'a pas de contact avec l'extérieur, dans ce cas-là, il n'y a pas de pass sanitaire. Si la cuisine est ouverte ou qu'il y a des contacts, il faut le pass sanitaire. Et donc, on s'adapte, donc on crée justement, on communique avec notre réseau, avec l'ensemble des établissements, par plusieurs médias pour s'assurer qu'ils ont la bonne information le jour J.
Olivier Cohn, qui était l'invité de La France Bouge sur Europe 1. Les forces de l'ordre ont réalisé depuis l'entrée en vigueur du pass sanitaire le 9 juin 179 000 contrôles et procédé à 1331 verbalisations. Le télétravail ne sera plus obligatoire à partir de demain soir. L'État n'imposera plus aux entreprises un nombre de jours minimal à télétravailler. Les employeurs reprennent donc en main la main pour fixer les règles de travail en distanciel et en présentiel. Clément Le Saffre.
Oui, alors attention, ce n'est pas la fin du télétravail, simplement c'est la fin du télétravail subi, celui que l'on a découvert à marche forcée à cause du Covid. Désormais, il ne sera plus obligatoire, mais basé sur le volontariat. Alors pour ça, chaque entreprise devra définir ses propres règles en accord avec les représentants du personnel. Objectif, encadrer durablement le télétravail en s'adaptant aux besoins de chaque entreprise. Mais pour Fabrice Angéi, membre du bureau confédéral de la CGT, il faudra être vigilant pour s'assurer que les envies des salariés soient entendues dans ces accords.
Un accord, c'est la volonté réciproque de deux parties. Donc pour nous, il ne s'agit pas de laisser entre les mains uniquement d'entreprises, hein, mais qu'il y ait bien une négociation entre les organisations syndicales et les employeurs, que ce soit l'effectivité du droit à la déconnexion, que ce soit l'indemnisation des frais engagés. Pour nous, il y a quand même beaucoup de points qui restent à négocier dans les entreprises et dans les branches.
Beaucoup d'entreprises ont déjà pris de l'avance et signé des accords qui s'appliqueront donc après-demain. À la Massif, par exemple, les salariés peuvent travailler de chez eux au choix 2 jours fixes par semaine ou bien 8 jours par mois. Un accord a aussi été signé dans la fonction publique. Là, ce sera 3 jours de télétravail maximum par semaine.
Clément Le Saffre appelle à une journée de mobilisation le 5 octobre prochain pour défendre l'emploi, les salaires, les conditions de travail et d'études. Appel lancé ce soir par une intersyndicale qui regroupe la CGT, Force Ouvrière, la FSU, Solidaire et plusieurs organisations étudiantes.
Europe Nuit, Alexandre Lemaire.
La tempête Ida continue de s'affaiblir aux États-Unis, mais au plus fort, l'ouragan porte des vents de 240 km/h. Il est l'un des plus puissants à avoir traversé la région, 16 ans après l'ouragan Katrina. Au moins une personne a été tuée près de la Nouvelle-Orléans, plus d'un million de foyers privés d'électricité en Louisiane. Alexis Guilleux, vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Sur la route de l'ouragan, Alexis, les sinistrés découvrent l'ampleur des dégâts matériels.
Oui, les gardes-côtes ont filmé les premières images des zones sinistrées, des toits arrachés, des routes impraticables à cause des inondations et des débris, des dégâts considérables pour toute la zone située dans le passage de l'œil de l'ouragan, avec des habitants parfois obligés de se réfugier dans leur grenier face à la rapide montée des eaux. Selon le gouverneur de Louisiane, Ida a été aussi violent que prévu. La bonne nouvelle d'abord, c'est que notre système de digue a parfaitement fonctionné. Ça n'a pas débordé, il n'y a pas eu de rupture. Cela dit, les dégâts sont catastrophiques. Selon mon estimation, il est très probable que nous ayons près de 2 millions de personnes sans électricité en ce moment. Alors toute l'agglomération de la Nouvelle-Orléans reste encore privée de courant. Le réseau téléphonique dans la région a été endommagé, ce qui complique la tâche des secours pour entrer en contact avec les victimes dans les zones les plus sinistrées. Pour le moment, le bilan est toujours de 1 mort, mais ce chiffre pourrait considérablement augmenter selon le gouverneur. Les autorités sont toujours sans nouvelles de plusieurs personnes sur une île tout près de là où Ida a touché terre hier. L'ouragan qui s'est affaibli et qui remonte vers le nord et traverse actuellement l'état du Mississippi.
Alexis Guilleux aux États-Unis pour Europe 1. Les menaces contre l'aéroport de Kaboul restent réelles et précises. Selon le Pentagone, à moins de 24 heures du retrait des troupes américaines d'Afghanistan, le Conseil de sécurité des Nations Unies vient d'adopter une résolution qui appelle les talibans à garantir les départs d'Afghanistan après le 31 août. Une ultime série de fouilles sont organisées à la recherche du corps d'Estelle Mouzin, victime présumée en 2003 du tueur en série Michel Fourniret. Sa veuve, Monique Olivier, sera extraite demain de sa cellule pour participer aux recherches. Recherche qui se déroule dans un bois des Ardennes, près de Charleville-Mézières. Maximilien Carlier, vous êtes sur place pour Europe 1. Vous avez assisté à la première journée de recherche.
Oui, effectivement, on a entendu de loin les pelleteuses. Sur place, un fourgon d'identification criminelle. Il faut savoir qu'Issancourt et Rumel, c'est 400 habitants, des maisons en briques jaunes typiques des Ardennes et un bois communal. C'est à cet endroit justement qu'ont lieu les ultimes, les dernières fouilles. Sur une surface de 4 hectares environ, c'est l'équivalent de 6 terrains de football. Objectif, retrouver la dépouille d'Estelle Mouzin disparue en 2003. Didier Seban, avocat d'Éric Mouzin, le père d'Estelle.
Nous avons bon espoir, les moyens techniques sont là, l'archéologue est présent, l'équipe de gendarmes qui suit le dossier, la juge d'instruction, sa greffière. Donc tout le monde est là pour essayer de donner une réponse à la famille d'Estelle.
Et Monique Olivier sera bien présente demain. L'ex-épouse de Michel Fourniret sera extraite de la prison de Fleury-Mérogis. Elle est mise en examen pour complicité. La septuagénaire a précisé à la juge avoir accompagné le tueur en série au bord du bois pour le laisser enfouir le corps de la fillette. Reste à savoir maintenant si Monique Olivier parviendra à guider les enquêteurs.
Maximilien Carlier dans les Ardennes pour Europe 1. C'était l'un des engagements de campagne des écologistes repris par Anne Hidalgo à sa réélection à la mairie de Paris. La vitesse est désormais limitée à 30 km/h dans la quasi-totalité des rues de la capitale. La mesure vise à améliorer la sécurité routière et à faire baisser les nuisances sonores. Elle est déjà en vigueur dans des villes comme Lille, Grenoble, Nantes ou Montpellier. Dans leur majorité, les Parisiens approuvent. 61% sont favorable à cette mesure, selon un sondage IFOP. Océane Théard est allée à la rencontre des piétons et des automobilistes.
On est souvent l'œil sur son compteur parce qu'on s'aperçoit qu'on est déjà à 40, 45, 50. Il faut dire qu'on se traîne.
Pour nous, c'est une catastrophe. Par exemple, on a 3, 4 chantiers sur Paris. Avec l'embouteillage et le kilométrage, si on arrive à passer sur 2, 3 chantiers, déjà la journée est finie.
On a l'impression que ça va faire plus de bouchons parce qu'il n'y a pas de fluidité dans Paris. C'est ce qui manque. Et donc si c'est 30 plus fluidité, d'accord. Mais là, non, ça va faire plus de bouchons parce que la circulation n'est pas bien réglementée dans Paris.
Parfois, il y a des gens, ils arrivent, c'est vrai, à une vitesse, même quand vous êtes devant un passage piéton, donc ils arrivent vite. 30 km/h, moi, en tant piéton, je serai plus rassurée quand j'attendrai devant mon passage piéton.
Voilà, première réaction de Parisiennes et de Parisiens, alors que la vitesse est maintenant limitée à 30 km/h dans la plupart des rues de Paris. Le mercato n'a décidément pas encore livré toutes ses surprises. Selon plusieurs médias, le Real Madrid stoppe les négociations avec le PSG pour le transfert des Mbappé. Les deux parties ne sont pas parvenues à un accord. Alors, sauf coup de théâtre d'ici demain soir minuit, Cyril de la Morinerie, Kylian Mbappé devrait rester parisien pour cette saison encore.
Oui, le silence des dirigeants parisiens prouve qu'ils n'ont pas changé d'avis. Nasser Al-Raifi et Leonardo restent inflexibles malgré une seconde offre des dirigeants madrilènes de 180 millions d'euros. Les Qataris veulent aligner le trio magique Mbappé, Neymar et Messi, d'autant que l'attaquant français a encore brillé dimanche soir en Champagne. Des accélérations fulgurantes, un doublé et un début de complicité avec Léo Messi. Kylian Mbappé a affiché son sourire sur le terrain, il a exprimé sa joie sur les réseaux sociaux, de quoi refroidir les médias espagnols. Lors de débats enflammés, les spécialistes commencent sérieusement à douter de l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid. Quoi qu'il arrive dans les heures qui viennent, elles seront folles en termes de spéculation, de tension dramatique. C'est théâtral et grandiloquent.
Cette vente, c'est l'émir du Qatar qui doit l'accepter. Pas Nasser Al-Khelaifi, pas Leonardo, mais bien l'émir du Qatar. Les heures qui viennent seront cruciales. Ce transfert sera difficile, oui. Mais personne ne doit perdre espoir. Car rien n'est impossible.
En tout cas, Kylian Mbappé vit cette agitation médiatique sereinement à Clairefontaine. S'il ne sait toujours pas dans quel club il jouera, l'attaquant français connaît au moins la tunique qu'il portera mercredi soir à Strasbourg. Ce sera bien sûr le maillot bleu de l'équipe de France.
Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1. Le temps pour ce mardi, Marlène Duret. On commence à avoir l'habitude hein, cet été. Le soleil va tarder à se montrer demain sur la moitié nord.
Et oui, c'est vrai que les jours ont l'air de se ressembler. Les éclaircies finiront par s'imposer. Mais il va falloir patienter un petit peu puisque le réveil se fera sous un ciel assez nuageux, parfois couvert sur la moitié nord. Et on va englober même une partie de l'Auvergne. Le Val de Saône et le sud de la Bretagne seront épargnés et on profitera déjà de belles éclaircies. Donc ça nous fait une belle portion de la moitié nord. Côté précipitation, rien si ce n'est quelques gouttes en plaine d'Alsace l'après-midi. Et puis sur le reste du pays, bon bah c'est beau hein, en allant vers l'Atlantique, le sud du pays. Seulement quelques averses à noter sur les massifs alpins et un risque orageux aussi dans les Alpes du Sud ainsi que sur les sommets pyrénéens. Côté température, on prévoit 17 degrés à Gérardmer au cœur du massif des Vosges, 19 sur la pointe du Cotentin, 21 en Alsace, 22 à Lille, Nancy et Brest, 24 à Paris, à Lyon, à Biarritz, 25 à Nantes et Grenoble, 28-29 en midi toulousain, jusqu'à 29 à Sainte-Marie-de-la-Mer et même jusqu'à 30 degrés dans les arènes de Nîmes.
Merci Marlène Duret, on vous retrouve bien sûr à minuit pour un dernier point météo. Restez avec nous sur Europe 1 dans un instant, c'est Top à Wall Street avec Didier Hameau, à suivre l'invité éco d'Emmanuel Duteil et puis les unes de la presse demain matin. A tout de suite.
Europe 1. Informez-vous avec Alexandre Lemaire sur Europe 1.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Top à Wall Street avec Didier Hameau ce soir. Bonsoir Didier.
Bonsoir Alexandre.
Wall Street débute la semaine au sommet avec l'aide de la hausse des valeurs technologiques.
Oui, c'est le Nasdaq, un indice des valeurs de technologie qui bat des records au plus haut, plus 0,9%. 15 266 points. Le Dow Jones est plus calme, moins 0,16%, 35 400 points. La Réserve fédérale a plutôt temporisé les débats vendredi par la voix de son patron Jérôme Powell qui a écarté les craintes d'un resserrement trop brutal de la politique monétaire américaine. Résultat, les valeurs de technologie s'emballent encore. On a Apple ce soir, plus 3%, 153 dollars. Microsoft, plus 1,3%, 303 dollars. Belle hausse de Tesla aussi, plus 2,7% à 731 dollars. Facebook gagne 2%, Amazon 2% aussi, Google plus 0,4%. Donc toutes les valeurs de technologie se distinguent. Il y a le pétrole aussi qui remonte encore de 2% à 69,25$ le baril WTI. C'est beaucoup plus calme sur les devises. L'euro reste stable, 1,18 face au dollar.
La bourse de Paris a progressé elle aussi dans un marché plutôt calme.
Oui, alors c'est plus modeste, hein, plus 0,08%, une petite hausse, 6687 points sur le CAC 40. Contrairement à Wall Street, ce ne sont pas les valeurs de technologie qui ont brillé, mais le secteur médical, en particulier les valeurs de biotechnologie. En tête, Valneva grimpe encore de 16% à 19 euros grâce à son candidat vaccin contre le Covid. Le produit est actuellement testé en Grande-Bretagne dans le cadre d'un essai de phase 3. Une autorisation pourrait intervenir avant la fin de l'année. D'autres laboratoires aussi se distinguent comme Quantum Genomics qui gagne 15%. Là, le laboratoire travaille sur l'insuffisance cardiaque.
Oui, exception du jour, Didier, le secteur bancaire qui est resté à la traîne à la Bourse de Paris.
Les hésitations monétaires des banques centrales qui veulent encore observer la situation économique avant de passer à l'action, freinent le secteur financier. Effectivement, on a la Société Générale qui recule d'un 1,5%, BNP moins 0,8%, Crédit Agricole moins 0,2% de petite baisse hein, sur les valeurs bancaires. Ailleurs, sur les autres places financières, en Europe, le DAX à Francfort gagne 0,2%, ça monte un petit peu partout, de petite hausse à Milan plus 0,5%, à Amsterdam plus 0,2% et donc le CAC 40 à Paris plus 0,08%, 6 687 points.
Merci Didier Hameau. L'interview éco sur Europe 1, Pierre Goguet, président de CCI France, est l'invité ce soir d'Emmanuel Duteil. On revient sur la fin du quoi qu'il en coûte.
Bonsoir Pierre Goguet.
Bonsoir.
Un grand merci d'avoir accepté à l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le président des chambres de commerce et d'industrie de France. Vous connaissez donc par cœur le tissu économique français. Et à ce titre, vous étiez ce matin à la fameuse réunion autour de Bruno Le Maire et de plusieurs ministres pour décider de la fin du quoi qu'il en coûte et surtout de la mise en place de solutions dites de sur-mesure pour les entreprises qui sont toujours en difficulté. Question toute simple. Ça va dans le bon sens? Les entreprises sont prêtes à la fin de ce quoi qu'il en coûte?
Écoutez, dans leur grande majorité, la réponse est oui. Vous savez qu'à la fois au niveau des organisations patronales, MEDEF, CPME, etc., la fin du quoi qu'il en coûte a plutôt été saluée, avec la nécessité de passer d'un système forfaitaire à un système ciblé sur mesure, avec les entreprises ou les secteurs ou les territoires ciblés en fonction de leurs difficultés qui perdureraient. Voilà. C'est tout à fait normal. Et par contre, évidemment, ça signifie que notamment nous, Chambre de commerce, dans l'accompagnement des entreprises, on était déjà sur le terrain au plus près de nos collègues entrepreneurs. Et là, on va les accompagner pour évidemment répondre à la constitution de cette mesure de frais fixes qui va générer, pour ceux qui effectivement sont éligibles, une indemnisation.
On appelle ça les coûts fixes maintenant. Ce ne sera plus le fonds de solidarité. Pour ceux qui ne seraient pas très au courant, qu'est-ce que ça change pour un chef d'entreprise? C'est plus simple, c'est moins simple de prouver une baisse de chiffre d'affaires dans ce cadre-là?
C'est des concepts qu'on connaît bien dans le monde de l'entreprise et que tout le monde comprend. Par contre, il y aura un temps de traitement du dossier à Bercy, à la DGFiP, ce qui est naturel. Chaque dossier, le ministre a dit, ça sera 3 heures. 3 heures par 32 000 entreprises, ça fait 100 000 heures. Ça veut dire quelque part qu'il va falloir des dossiers extrêmement bien constitués pour qu'ils soient éligibles et traités vite, parce que de ce traitement dépendra le déblocage des fonds correspondants.
Bercy a déjà prévenu, attention, passer au sur-mesure, ça veut dire que les dossiers sont plus complexes et seront donc plus longs à traiter. Donc même s'ils sont bien faits, ça prendra plusieurs semaines en plus.
Bien sûr, et nos chambres de commerce sont là pour aider, évidemment. Je voulais rajouter un point qui est quand même important, c'est que toutes les entreprises pour être éligibles devront être en activité. J'entends que le ministre veut encourager dans cette nouvelle procédure les entreprises qui jusqu'à maintenant avaient préféré rester fermées. Ça, c'est fini. Puisque si elles décidaient de rester fermées, si elles n'ont pas au minimum 15% de chiffre d'affaires par rapport à l'antériorité, elles ne se seraient plus, pour celles qui l'étaient, éligibles à ce type d'aide. Voilà, ça c'est important.
Tout le monde s'accorde à dire que grâce à ce plan d'aide, il y a eu très peu de faillites, hein, puisqu'on a moins de faillites en ce moment qu'avant la crise. Pour autant, craignez-vous que les faillites arrivent?
Je crois que, de fait, beaucoup d'entreprises ont quelque part un rebond qui les attend. Maintenant, il y a des modèles économiques qui sont complètement impactés par des changements d'habitude des consommateurs, par des changements de pratiques. Regardez la montée en puissance du télétravail qui est inscrit maintenant, qui est inscrite. Tout ce qui vivait à proximité du déplacement du salarié, y compris peut-être effectivement des restaurants, de restauration rapide à proximité des lieux de travail, etc., vont être percutés par ça. Donc soit ils vont trouver une activité ailleurs, soit évidemment, il peut y avoir des dégâts. Mais vous savez, le processus darwinien de sélection des entreprises, il existe depuis toujours. Moi, je ne m'attends pas à ce qu'il y ait un rebond très important. Je suis plus inquiet des fermetures d'entreprises, ou plutôt de l'absence de développement d'entreprises pour des problématiques de recrutement.
Alors là, on n'arrête pas d'en parler de ce point-là depuis la rentrée.
Oui.
C'est à ce point-là devenu cataclysmique?
Oui. Alors, cataclysmique, peut-être pas, mais on est, et ça a été dit ce matin, même si ce n'était pas le sujet, on est sur des vrais problèmes que des secteurs doivent considérer d'attractivité des postes, des jobs qu'ils proposent. Et il faut évidemment travailler sur cette attractivité qui passe peut-être par du salaire, mais pas seulement. C'est les horaires de travail, etc. Et c'est seulement si ces secteurs relèvent le défi de leur attractivité qu'ils trouveront les recrutements qui, dans cette période compliquée, ont trouvé, une place ailleurs qui parfois leur convient mieux. Donc il y a une reconquête à faire. Et évidemment, derrière, il y a aussi un effort de montée en compétences, de l'entreprise France, parce que les défis à relever, ils sont internationaux et il faut qu'on monte en compétences sur tous les métiers, notamment de l'industrie, pour retrouver la compétitivité par la compétence avant tout, parce que ce n'est pas par les coûts qu'on la trouvera.
Mais soyons juste précis quand même sur un point, Pierre Goguet. Je rappelle que vous êtes le président des chambres de commerce en France. Vous le dites, vous appelez à augmenter les salaires pour ces jobs.
Alors, je pense qu'il y a des secteurs où il va falloir en passer par là. Mais attention, c'est sélectif et quelque part, ça ne suffira pas d'ailleurs. Hein. Encore une fois, vous avez des salariés qui, en termes, allez, appelons ça de qualité de vie, ont quelque part changé de paradigme pendant cette période et uniquement le salaire ne suffira pas. Il va falloir changer l'organisation du travail elle-même.
Mais ça, vous sentez que les entreprises, les entrepreneurs sont prêts à cela ou vous dites à l'État aidez-nous aussi là-dessus, baisser ce qu'ils peuvent encore baisser, par exemple, comme charge.
Alors écoutez, je pense que là aussi, il va falloir nuancer par secteur. Je pense que certains secteurs, dans une période transitoire pour leur permettre de s'adapter, pourraient être effectivement aidés. Vous parlez des charges sociales, par exemple, du cotisation, ça pourrait s'envisager. Et je sais que Mme Borne, ce matin, il faut le saluer, a d'ailleurs tendu la main aux organisations qui avançaient ces problématiques-là pour les rencontrer et travailler sur ces sujets. Voilà.
Elle avance, mais est-ce qu'elle vous a laissé le début des pistes ?
Non, je crois qu'on se garde bien de généraliser dans ces cas-là. Il y a quand même beaucoup de secteurs où le problème ne se pose pas. On n'est pas en train de discuter d'un Grenelle. Hein. Donc, je crois que c'est vraiment au cas par cas et que, évidemment, l'aspect salaire a un lien avec l'aspect compétence. Regardez même dans les métiers de la santé, au niveau des infirmiers, etc. Il y a eu pendant cette période un effort de fait par le gouvernement qui a été évidemment appliqué dans le secteur. Est-ce que ça suffira à résoudre le problème de la pénurie de personnel médical, nous le suivrons ensemble, mais dans tous les cas, ça passe évidemment par une vraie vigilance et de la formation et de la montée en compétences.
Eh bien, merci beaucoup Pierre Goguet. Je rappelle que vous êtes le président des Chambres de commerce et d'industrie de France. Un grand merci d'avoir été ce soir sur Europe 1. Nous, on se retrouve demain, 22h20.
Pierre Goguet, Europe président.
Alexandre Lemaire vous informe sur Europe 1.
Voilà, Pierre Goguet, donc président de CCI France. Emmanuel Dutheil, on vous retrouve demain avec Elisabeth Assayac pour La France bouge de 13h à 14h sur Europe 1. Il sera question des cartes routières et des cartes de randonnée, des cartes papier, parce que ça existe encore. On n'a même pas besoin de recharger, c'est pratique. Votre invité sera l'une des patronnes de l'IGN, l'Institut Géographique National. On se lance sur les unes de la presse pour demain matin. On a déjà une idée des unes de vos quotidiens pour ce mardi. À la une d'aujourd'hui en France, le plan de Macron pour Marseille. Plan pour l'insécurité, les écoles, le logement. Le chef de l'État effectue à partir de demain un déplacement de 3 jours dans la cité phocéenne. Il va donc présenter un plan de modernisation et de rénovation. Un plan à plusieurs milliards d'euros. Marseille marquée notamment par des explosions de violence, des règlements de comptes à répétition sur fond de trafic de drogue. La plupart de vos quotidiens, par ailleurs, titre sur l'Afghanistan. Kaboul abandonné aux talibans, titre Le Figaro. La fin programmée des évacuations ce mardi marque l'épilogue de la plus longue guerre américaine. Après 2 décennies, l'Afghanistan rendu au pouvoir des islamistes. C'est le jour d'après, titre L'Humanité. Après 20 ans d'occupation stérile des États-Unis, Libération qui tente sur ce même thème un jeu de mots, Afghanistan. Le joug d'après. Qu'est-ce qui attend les Afghans piégés par les talibans dans un pays désormais déserté par l'armée américaine, se demande Libération, entre angoisse et désespoir ambiant des habitants. Enfin, la une de Ouest-France veut vous rassurer sur la fin des aides aux entreprises. La transition sera très progressive, titre Ouest-France. Le fonds de solidarité, finalement prolongé jusqu'au 30 septembre, sa disparition est diversement appréciée par les organisations patronales. 22h30 sur Europe 1. Bienvenue si vous nous rejoignez, c'est l'heure de la Libre Antenne avec Olivier Delacroix. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Alexandre, comment allez-vous ?
Ça va très bien, vous êtes prêt à attaquer cette Libre Antenne ?
Écoutez, c'est le début de la semaine, donc en pleine forme.
En pleine forme, ça se voit. À tout à l'heure
Olivier. À tout à l'heure.